Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
La vie humaine en sa fragilité, c'est la réflexion que nous vous proposons de mener dans trois émissions successives. La première aujourd'hui apporte une réflexion théologique sur la personne humaine en sa fragilité. Afin de poser un regard théologique sur la fragilité humaine, nous sommes avec le frère Jean-Michel Maldamé, dominicain et théologien. Bonjour frère Jean-Michel.
Bonjour.
Vous vous intéressez particulièrement au rapport entre la religion et la science et je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour nous introduire à ce beau sujet de la vie humaine en sa fragilité. Avant d'aborder cette approche théologique, expliquez-nous, frère Jean-Michel Maldamé, quel sera le déroulé de cette trilogie, si on peut l'appeler comme ça?
Oui, ce que vous appelez trilogie est une trilogie. Il y a eu trois conférences au couvent du Dominicain, dont j'en étais un peu l'organisateur, sur ce thème de la vie humaine en sa fragilité. Moi, j'ai fait la première conférence pour présenter un peu les choses d'une manière un peu théologique. La deuxième était faite par un médecin qui travaille à l'Oncopole en soins palliatifs, qui nous a dit son expérience et les questions que ça lui posait. Et la troisième est faite par un professeur, philosophe, mais aussi psychanalyste, qui nous a parlé de la formation de l'enfant et de sa vulnérabilité dans la croissance.
Donc voilà, nous verrons au cours de ces trois
émissions.
Il y a ces trois éléments
qui sont en accord les uns avec les autres, mais pas du moins point de vue. Mon point de vue, c'est le point de vue théologique, le point de vue de la foi, le point de vue du médecin, c'est le point de vue anthropologique de quelqu'un qui accompagne des gens et des familles dans des circonstances difficiles. Et le point de vue du psychologue philosophe, c'est celui de la découverte de la richesse et de la fragilité humaine telle qu'elle est dans l'enfance où, dans les premiers temps, s'inscrivent des choses qui marquent toute la vie.
Voilà qui paraît en tout cas passionnant et nous allons effectivement retrouver donc ces deux autres intervenants les semaines suivantes. Vous avez souhaité, frère Jean-Michel Maldamé, fonder votre propos sur la guérison de l'aveugle-né, rapporté par l'évangéliste Saint Jean. Pourquoi ce texte?
Oui, pour ce sujet. Ce texte parce qu'il est beau,
c'est vrai.
Ce texte parce qu'il est fondamental, et je crois que d'une certaine manière, c'est très pragmatique, il m'a permis de présenter les choses dans une grande liberté d'esprit. Voilà. Et ensuite, d'une certaine manière, d'ouvrir sur les perspectives qui ont été abordées, hein, celles des malades, celles des enfants. Donc j'ai pris ce texte en étant attentif à relever un point qui n'est pas toujours mis en œuvre, parce que c'est dans le grand chapitre de la guérison de l'aveugle-né, qui est lu pendant le carême, et on insiste surtout sur le chemin que cet homme fait après avoir été guéri par Jésus, et on passe très rapidement sur les premières lignes, et donc j'étais attentif aux premières lignes, où il y a un dialogue entre Jésus et ses disciples à propos de la situation de cet homme qui est aveugle de naissance, ce qui pose évidemment fondamentalement la question du mal, et à partir de là, permet d'entrer dans la perspective évangélique, donc vécue par Jésus, sur le combat contre le mal.
Oui, parce que les disciples posent cette question à Jésus, est-ce lui ou ses parents qui a péché? C'est ça.
Oui, alors les disciples, oui, alors, pose la question, est-ce que lui ou ses parents qui ont péché? Alors, évidemment, cette question est habituel, mais Jésus dit que c'est pas une bonne question. C'est pas une bonne question parce que ça enferme dans une espèce de culpabilité qui empêche finalement d'agir. Alors, à partir de là, donc ça c'était le début de mon exposé, j'ai fait une critique de la facilité qu'il y a à dire, il y a un responsable, donc si comme c'est de naissance, on ne peut pas accuser celui qui est né parce qu'il n'avait pas vécu avant, donc on va accuser les parents, mais Jésus dit non, ce n'est pas cela qu'il faut mettre en œuvre, hein, c'est qu'il faut dire que c'est, voilà, dans ce que répondit Jésus, je lis le texte, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu, c'est-à-dire faisons pas des spéculations sur le péché des parents, sur le péché qu'il aurait éventuellement pu commettre avant de naître, on ne sait pas lequel, si le problème de réincarnation.
Ah oui,
toute cette aliénation religieuse qu'on a aujourd'hui sur la réincarnation, c'est ça que condamne Jésus. Dit, vous avez vécu comme un cochon, vous serez transformé en cochon. Vous avez fait la dinde, vous serez une dinde. Je pense que dire donc celui qui est aveugle, peut-être que c'est le retour sur terre dans les religions.
Hein.
Or Jésus dit non, vous avez quelqu'un qui est aveugle pour des raisons qui... on peut examiner les choses, mais là il n'y a pas un examen médical. C'est pour vous qui êtes là et qui le voyez, une exigence de venir à son aide et de le faire. Et c'est ce que Jésus dit, hein, tant qu'il fait jour, travaillez aux œuvres de celui qui m'a envoyé, donc Dieu le Père. Il fait jour, nous sommes en bonne santé devant cet homme né aveugle. Que faire pour qu'il sorte de la situation où il est ? On ne va pas rêver de lui rendre la vue magiquement. Dieu seul peut le faire et Jésus le fait. Mais peut-être qu'on peut aussi faire d'autres choses. Et alors, c'est pourquoi ce texte m'a semblé très intéressant pour à la fois entrer dans une démarche de foi, une démarche théologique, et en même temps nous libérer d'un certain nombre de choses qui sont, de mon point de vue, alors ça c'est mon point de vue critique, de mon point de vue, est un peu un échappatoire en disant « mais c'est pas lui, c'est les parents ».
Ça permet de se dédouaner.
C'est comme ça, donc il n'y a rien à faire. Dit Jésus, il y a quelque chose à faire. Et il le fait.
Et Jésus le fait, puisqu'il guérit cet aveugle-né. Pour bien comprendre le raisonnement des disciples qui considèrent que le mal est dû au péché, il faut remonter aux origines de l'homme. Et c'est vrai que dans votre conférence, vous vous êtes appuyé sur le livre de la Genèse qui rapporte le récit de la création de l'homme. Qu'est-ce que nous dit ce texte du premier homme ?
On remonte très loin. Le texte qui ouvre la Genèse, mais c'est un texte qui est compliqué parce que, comme vous savez, les textes bibliques sont composés de plusieurs de types de feuillets.
Et là, il y a deux récits.
Et donc, Dieu crée l'humanité à son image. Voilà. Donc, c'est ça le sens du texte. Ça, c'est le premier grand récit. Ensuite, on dit qu'on reprend un deuxième récit, mais ce n'est pas contradictoire, qu'il y a eu comme que l'homme a été façonné. Hein, donc, c'est le sens latin du mot. Homme vient du latin, humus, etc. Donc,
la terre.
La glèbe féconde qui devient... Donc, on a cette idée du Dieu artisan qui fait les choses. Donc, c'est une image. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est une image. Ce qui fait que nous avons une espèce d'ouverture sur deux éléments dès le début de la Bible. L'intention de Dieu qui fait un être spirituel qui soit à son image comme sa ressemblance, et deuxièmement, un être qui est dans le grand mouvement de la vie sur la planète Terre.
Un être de chair.
Un être de chair, voilà. Et c'est l'un et l'autre. Et donc, qui dit être de chair, dit vulnérabilité, et qui dit également être spirituel, dit une autre vulnérabilité, celle qui est liée à la liberté. On a le pouvoir de faire le bien et le mal. Donc les deux textes se complètent bien sur deux registres différents. Mais il faut bien voir que cette situation de fragilité n'est pas de l'ordre du mal. C'est la condition de la fragilité qui permet d'accomplir sa propre vie dans sa propre responsabilité, d'où la notion de responsabilité. Et c'est pour ça que la notion de fragilité est la notion centrale. C'est un être fragile, mais sa fragilité, c'est le revers de sa liberté et de sa responsabilité.
Oui, c'est ça. Oui, parce que Dieu laisse à l'homme la liberté de choisir entre le bien et le mal, et c'est en cela que l'homme est fragile, puisque justement, il peut choisir le mal au lieu de choisir le bien.
Parce qu'il a véritablement la possibilité de dire oui ou de dire non, et d'assumer donc les conséquences de son oui ou de son non, et c'est pourquoi tout ce que nous raconte la Bible, c'est sans arrêt le moment où des gens sont placés devant des situations où ils peuvent faire une chose ou une autre. On peut obéir ou désobéir, on peut prier ou blasphémer, on peut appliquer la loi ou ne pas appliquer la loi. C'est cet élément de la fragilité humaine qui fait la grandeur de l'être humain. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, c'est un peu ça que Jésus met en œuvre. Jésus prend acte que il y a cet homme aveugle de naissance, donc dans la situation de mendiant, finalement, c'est un peu la position qu'il occupe, puisqu'il est, il est dehors et manifestement il mendie. Eh bien, Jésus va lui rendre sa dignité en lui demandant de prendre en main, en quelque sorte, son destin, dans la mesure de ses possibilités. C'est donc de quitter le point de sa mendicité pour aller à la fontaine de Siloé. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, enfin, comme il est dit au paralytique, lève-toi et marche. C'est-à-dire que lève-toi, c'est fais au moins l'effort de te lever. Donc on voit bien que la guérison de Jésus, c'est de solliciter quelqu'un à accomplir quelque chose. Donc là, c'est pour ça que le thème, c'est le thème de la vulnérabilité. L'être humain est vulnérable, donc il est mortel, il est capable de maladie, mais cette vulnérabilité, c'est en même temps une ouverture vers une responsabilité. Et alors, c'est ça que le texte de l'Évangile met en œuvre. Hein. Jésus fait de la boue et met la main sur les yeux, ce qui est évidemment une thérapie qu'il ne faut pas pratiquer aujourd'hui. Si jamais notre ophtalmo nous met de la boue dans les yeux, on dira chez un autre.
Ça
ne
marchera pas pareil.
On dira chez un autre. Hein? Et ensuite, il lui dit, c'est ça qui est important, il lui dit, va te laver à la piscine.
Oui, il y a vraiment une action de l'homme.
Il n'y a pas simplement, hop, je fais un miracle, boum, boum, ça c'est fini, tu vois. Il dit, mais non, va te laver. Fais quelque chose, c'est-à-dire que quitte l'endroit où tu es et va dans un lieu symbolique, hein, parce que c'est la piscine de Siloé, c'est la piscine qui représente en quelque sorte la capacité qu'a eu Jérusalem assiégée de résister, parce qu'il y avait une source dans la ville. Hein, voilà, donc la qui dit piscine de Siloé dit résistance, dit franchir l'obstacle. Donc il
ça veut
fait...
dire l'envoyer aussi, non? C'est ça, Siloé?
Oui, oui, mais c'est oui, l'envoyer de Dieu. Hein. Mm. Donc c'est symbolique de ça. Donc c'est ça, la vulnérabilité, la fragilité humaine, elle se manifeste comme celui qui est fragile, celui qui est vulnérable, donc celui qui a perdu la vue, en l'occurrence, et donc, mais qui connaît sa ville, parce que les aveugles, ils savent se repérer, va faire un acte porté par la parole dans laquelle il croit, et c'est ça qui va lui donner, je dirais, la possibilité de voir clair. Mmh. Voilà. Alors, je pense que ce texte est exemplaire, hein, parce que par rapport à la vulnérabilité humaine, par rapport à la fragilité humaine, il peut donner une leçon universelle de fragilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit aveugle, mais sans aller jusque...
on est tous plus ou moins aveugles quand même, frère Jean-Michel.
On a des limites. On a des limites.
On a des limites parce qu'il y a des choses qu'on refuse de voir aussi.
On a tous des limites et on a des limites qu'on assume et il y a des limites qui font toujours mal. C'est ça. Donc, alors, c'est avec les limites qui font mal. Hein. Donc, la cécité, c'est une limite radicale qui fait vraiment mal. Mais on a tous des points.
Hein. Oui,
donc avec ce que l'on est, il faut se lever et aller à la fontaine. Et c'est à ce moment-là que se fait quelque chose. Voilà. Alors, donc, j'ai pris ça comme point de départ pour se situer dans une autre perspective que de dire qu'il nous libère. On ne va pas dire qu'il a du péché, lui, ses parents, etc. C'est une perspective qui, finalement, n'apporte rien. L'essentiel, c'est d'assumer ce qui est de liberté, de possibilité pour, en quelque sorte, être transformé. Alors, transformé par la parole du Christ, transformé par la parole de notre. Donc, ce n'est pas une auto-transformation.
Oui,
donc,
oui,
il y a un appel.
Oui, c'est laisser l'action de Dieu
il y a
se faire.
Une action de Dieu. Donc, on est dans un texte de révélation. Hein. Bon, et ensuite, il faudra que cet homme fasse. Alors, c'est l'aspect sur lequel on insiste toujours dans la catéchèse, tout le chemin qu'il va faire pour reconnaître Jésus. Alors, on insiste tellement sur ça que ceci est connu.
Qu'on oublie le début.
Hein.
Ouais.
Mais moi, j'insiste sur le début. L'aveugle se alla à la piscine, il se lava. Et il revint en voyant clair. Voilà. Il se lave.
Et d'ailleurs, on voit dans d'autres textes la même démarche. Par exemple, pour la guérison des lépreux, les lépreux doivent revenir aller voir les prêtres pour montrer leur guérison.
Oui, pour parler de la fragilité, il m'a semblé que c'était une bonne entrée par rapport aux questions qui ont été abordées ensuite, hein, de la présence auprès de ceux qui finissent leur vie. Et aussi des enfants qui sont plus vulnérables, puisque donc c'est cette vulnérabilité qui m'a semblé ce texte pour parler de cette perspective de l'être humain qui est créé dans la liberté et donc dans la vulnérabilité, qui est créé sans avoir toute lumière sur tout, mais qui a la responsabilité de le faire et de suivre la parole du Christ en faisant ce qu'il fait.
Hein. Mmh. Donc, et dans le cas où une personne est vraiment empêchée, par exemple, une personne qui est malade, qui est sur son lit et qui ne peut pas bouger, quelle est sa part de participation, puisque vous dites que ça fait partie justement de cette liberté.
Alors, vous parlez de ça avec le médecin
qui
est confronté à la réalité, parce que moi je ne suis pas confronté à cette réalité. Mais je pense que quand on est au contact avec des gens dans la détresse, vous savez, moi je dis que, bon, parce que je suis un pauvre dominicain, donc un frère prêcheur, donc qui parle, je dis qu'il y a la parole, mais la parole c'est pas des mots. Je dis que souvent, la parole, c'est aussi le regard que l'on porte à qui on parle. C'est aussi la manière dont on est assis. Ça dit au moins autant que ce que signifie la phrase que l'on prononce. Hein. Donc, comme je dis,
la posture,
on parle avec ses yeux. Hein. Parce que dire à quelqu'un, on va prendre un exemple simple pour parler, pour parler des enfants. Vous parlez à un enfant en lui disant quelque chose et la manière de le regarder en le disant change tout sur le sens de ce que vous dites.
Et le ton aussi. Hein?
Voilà, je pense que c'est ça qui en quelque sorte se manifeste en Jésus. Jésus va parler à cet homme, il va lui dire de faire quelque chose et ça fait un tout. Mmh. Alors, donc ça nous renvoie, nous, à notre fragilité. C'est la fragilité de la parole, parce que tout ça, évidemment, ne se met pas un programme informatique qui s'applique aveuglément quoi qu'on fasse.
Mmh. Et est-ce que, justement, par rapport à cette parole, est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu doit être comprise, prise au sérieux, finalement, pour que cette parole rejoigne chacun dans sa propre fragilité?
Ah, bien sûr, oui. Mmh. Oui. Alors après, chacun a sa fragilité, chacun peut entendre la parole, chacun peut la prendre, la méditer et faire les choses qu'elles se font. Donc y a qui dit cette perspective que je dis en disant qu'il y a un don, il y a aussi une responsabilité par rapport au don qui est reçu. Voilà, on a une responsabilité. Ça veut dire qu'il y a une éducation, etc.
Et cette responsabilité est une certaine façon, un moyen de donner à la personne sa dignité.
Oui, évidemment. Oui, la dignité est dans le fait qu'on a une responsabilité qui est donnée. On le fait spontanément pour les enfants. On leur dit, va te laver les mains, parce que ceci, tu auras les mains propres. Et la dignité d'avoir des mains propres quand on a été petit et qu'on a mis les mains
dans la boue.
C'est important. Bon, mais moi, je n'ai pas parlé des enfants, donc
en tout cas,
de compétences. Moi, j'ai parlé sur l'aspect proprement théologique, par rapport à sortir de ce que Jésus récuse dans la parole de ses disciples. C'est pas, il dit, ben, qui a péché, celui...
lui ou ses parents.
C'est pas dans cette perspective, c'est pas en parlant du péché que vous expliquez les choses. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de péché, ça veut pas dire que c'est rien. Mais ça veut dire que par rapport à cette situation humaine, c'est pas en référence au péché que vous aurez la solution, c'est en référence à ce qui est déjà là, et qui est saint et qu'il faut mettre à l'œuvre en disant à cet homme, eh bien, va te laver.
Oui, c'est ça. Oui.
Ce que tu as,
fais-le.
Fais-le.
Et puis
ce que tu peux faire, fais-le. Oui, oui. Bon, alors, on le fait à la parole d'un autre. Hein, alors, c'est là que la foi, c'est la parole d'un autre qui nous demande de faire.
Oui, avec donc cette confiance. On arrive déjà à la moitié de cette émission. Frère Jean-Michel Maldamé, je vous propose de marquer une pause musicale. Nous écoutons, puisque nous avons parlé de la création, nous écoutons l'ouverture de la création de Hind.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Nous sommes avec le frère Jean-Michel Maldamé, dominicain, pour aborder une réflexion théologique sur la personne humaine en sa fragilité. Vous nous avez parlé, frère Jean-Michel, du livre de la Genèse avec la création de l'homme. Il y a un autre texte, cette fois aussi dans l'Ancien Testament, qui parle du malheur qui écrase l'homme. Il s'agit du livre de Job. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord dans quelle situation est ce Job ?
Alors, la situation du livre de Job, c'est une situation qui est extrêmement importante parce que ça met en place... je dis d'emblée, hein, je crois que c'est la première fois que dans l'ensemble de l'Ancien Testament, on voit s'entrouvrir un rayon de lumière qui donne à penser à la résurrection.
Première fois dans le livre de Job.
À mon avis, c'est le premier texte. Alors, on peut discuter entre exégètes là-dessus, mais
ça,
à mon avis,
j'assume cette
affirmation. Mais évidemment, c'est une expression qui n'est pas encore mûre, hein, donc certains interprètent de manière faible. Moi, je donne la traduction forte. Alors, le livre de Job est un livre qui est très compliqué parce qu'il pose la question du mal et il confronte la question du mal à l'enseignement moral traditionnel. Et donc, il y a une mise en scène.
Oui, parce que Job, il lui arrive plaie sur plaie, en fait. Hein,
Il y a une mise en scène de notre porte-parole, si j'ose dire. Donc, l'homme le plus riche, le plus grand, le plus merveilleux, le meilleur, qui ne fait pas de faute, qui ne mérite rien.
Le parfait.
Pas un châtiment, rien, parfait. Donc, c'est le malheur. Il perd ses biens, on lui tue ses enfants. Il a une maladie inguérissable que personne ne saurait. Il est maudit par sa femme. Bref,
la catastrophe.
Certains amis viennent le consoler et lui font des grands discours moraux. Alors, le problème, c'est que signifie le livre de Job, qui va se terminer par deux conclusions. Dans l'une, on dit que les amis sont gentils et ont raison, et dans l'autre, on dira que c'est Job qui a raison. Donc voilà, la question reste ouverte. Alors, d'où il y a, dans l'interprétation du livre de Job, une position à prendre. Alors, force d'avoir lu ça, j'ai fini par prendre une position,
alors,
donc c'est celle que je vais vous dire. Le livre de Job a été écrit... Après la reconstruction de Jérusalem, à ce moment-là, on a mis en Israël une liturgie pénitentielle dans laquelle les gens qui rebâtissaient le temple au retour de l'exil disaient « Oui, nous avions péché, Dieu nous a punis, Dieu est juste, vive Dieu, ne péchons plus. » Voilà, ce discours moral classique, on n'a rien contre ce discours. Mm-hmm. Mais... le livre de Job dit, oui, mais une fois qu'on a dit ça, finalement...
On s'aperçoit qu'on pêche encore.
Non, on ne pêche pas. On est à côté de la plaque. Donc, ce que fait le livre de Job, c'est les amis de Job vont dire la morale traditionnelle. Mm-hmm. Elle est bonne, cette morale. Hein, c'est celle... Donc, elle n'est pas mauvaise. Voilà. Et Job dit, ben, vous avez dit tout ça... Mais moi, j'entends ce que vous dites et vous ne voyez pas que dans la responsabilité de Dieu engagée dans le malheur, hein, c'est une réalité réelle. Vous dites, ce n'est pas parce que les hommes ont péché qu'ils ont été punis. Vous dites, mais c'est, Dieu a puni. Mais cette punition était alors. Ce qui fait que la pointe, à mon avis, hein, c'est mon interprétation, hein, de Job, c'est de dire « ce que vous dites, c'est bien, j'ai rien contre, hein, c'est la morale, c'est bien, il faut cette morale. » Mais que se passe-t-il dans le malheur de Jérusalem, donc dans votre liturgie pénitentielle, les chefs, les grands, les machins qui étaient aux responsabilités, c'est eux qui ont fait le mal. Mais ceux qui ont porté le malheur, c'est les pauvres, qui étaient des gens honnêtes, qui étaient des gens pauvres, humbles. C'est eux qui souffrent. Alors donc, votre discours sur la morale, c'est un discours qui ne correspond pas
à la réalité,
la plus douloureuse qui soit. Et c'est ça le livre de Job.
D'accord.
C'est que, alors que ses amis disent des choses qui sont, oui, il faut être sage, parce que si on n'est pas sage, si on ne va pas à l'école et si on ne travaille pas, on n'aura pas un bon métier. Enfin, tout ça, c'est vrai, mais il n'empêche que... Alors, l'analyse littéraire montre qu'il va prendre les expressions des prophètes et il va les, les renverser. Ils disent, on dit par exemple, Dieu, comme un lion, est venu, il est rentré, il a griffé, etc. Il a dévoré les méchants, tout ça.
C'est cette image du Dieu vengeur. Dit,
mais attendez, mais qui il a dévoré? Est-ce que vous pouvez dire ça? Donc toutes ces images, il en fait. Voilà, donc c'est ce procès de Job. Qui... Alors, ce qui me paraît important, je pense que c'est la lecture traditionnelle dans la tradition chrétienne, c'est qu'à un moment donné, Job est poussé à l'extrême limite de sa lamentation. Et à ce moment-là, il dit, oui, mais tout ça, n'a pas de sens, tout ce que vous dites de la Bible, etc., n'a pas de sens si Dieu ne fait pas, d'une certaine manière, une nouvelle création, comme une résurrection. Et donc, c'est la première fois qu'on voit apparaître la notion de résurrection. Mmh. Alors, les gens discutent parce que le mot résurrection, ce n'est pas employé, mais de ma chair, je verrai Dieu. Voilà. Donc, ce livre me paraît très intéressant parce qu'il va montrer que la foi en la résurrection, c'est pas la foi des gens qui disent oh, tout est bien, donc on va continuer à être récompensé par la résurrection. C'est l'intervention de Dieu qui va justement partir de ce qui est le plus injuste, le plus amer,
le plus vulnérable.
Alors, c'est le premier texte, hein, d'ailleurs, ces textes qu'on prie dans la version latine, c'est le texte qu'on dit pour l'office des morts. Donc, d'une certaine manière, Job est une figure du Christ, parce que c'est à partir de la croix, donc de la position la plus terrible qui puisse exister pour l'existence humaine, que Jésus prend la tête de l'humanité souffrante pour ouvrir la porte du paradis. Mmh. Voilà, donc pour le livre de Job nous montre que, puisque nous sommes dans le cadre de la vulnérabilité humaine, de la fragilité humaine, donc cette fragilité humaine, elle est une hypersensibilité, donc elle radicalise le mal, par cette porte-là de sensibilité, de finesse, d'intuition qui est au-delà du raison, de la loi, etc., s'ouvre une porte vers une vie nouvelle que Dieu donnera par l'acte de résurrection. Mmh. Voilà. Donc je pense que c'est le livre de Job, dans la lecture que je propose, alors les exégètes ne sont pas tous d'accord, mais peu importe, je pense que le livre de Job ouvre sur une idée tout à fait nouvelle, c'est qu'il faut vraiment une résurrection pour que, en quelque sorte...
L'homme soit remis debout, finalement.
Que c'est pas simplement... Ce ne sera pas une restauration.
Oui, ah oui, c'est plus...
Ce n'est pas une restauration, oui. C'est une recréation. Mm. C'est une recréation
et
va renverser l'ordre... dans lequel notre monde se trouve, où évidemment il y a des gens qui profitent de l'existence et puis il y a des gens qui meurent de faim dans quelques envergures, il y a des gens qui sont dans leur palais et puis d'autres qui sont sous les bombes qu'on leur envoie sur la tête.
Et là aussi, comme ce que vous disiez, frère Jean-Michel Maldamé, dans la première partie, cette résurrection, cette fragilité de l'homme, elle implique la solidarité, la participation de chacun.
Oui, oui, oui. En la vivant, il faut la vivre, j'allais dire, fraternellement. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la vivre soit seul dans son égoïsme, il faut la vivre, je dirais, dans la solidarité avec ceux qui sont éprouvés. Alors, je pense qu'on parlera la prochaine fois avec un médecin qui voit en quelque sorte sa présence de médecin, en quelque sorte, d'une certaine manière, ne prend pas la place du malade, mais doit pouvoir en quelque sorte comprendre quelque chose du malade à partir de ce qu'est le malade.
C'est la compassion.
on peut dire, la compassion, au sens original du terme, oui, parce que la compassion est un peu affaiblie. La compassion, c'est souvent affaibli, ça. Oui, le pauvre, on
dit c'est la plutôt la pitié, dans ces cas-là, quand vous dites que c'est affaibli, c'est ça.
Oui, c'est vraiment ce renversement. Voilà. Donc, alors, je crois que Job, dans le corpus des textes de l'Ancien Testament, dit, enfin, tout ce discours qui veut justifier le malheur. Alors, on peut justifier le malheur. On peut dire, ben, il y a la guerre parce que on n'a pas fait ceci. Mm-hmm. On peut dire, il y a une épidémie parce que on a mangé des trucs ou on a semé, je sais pas quoi. On donne des explications, mais ces explications, elles sont justes, mais finalement, ça n'est pas le dernier mot de la question posée. Donc dire l'homme a péché, Adam a péché, donc finalement nous on va mourir, on va souffrir, c'est normal. Eh bien non, c'est intolérable comme discours.
C'est intolérable. Oui, mais est-ce que ça veut dire quand même que cette marque du péché originel qui est en chacun?
Oui, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette reconnaissance? Est-ce qu'on fait quelque chose en disant, ben oui, il a péché, il est aveugle né, ben il a péché, ben si, c'est pas lui, bien sûr, parce qu'il n'était pas né, mais c'est ses parents.
Et hop, en fait, c'est une façon de se dédouaner, de dire ça.
C'est une façon de botter en touche, comme on dit au football. On botte en touche, le ballon est parti, et on réorganise la partie. C'est précisément ça que fait Job. Job, il nous dit, messieurs, ce que vous dites, c'est bien, vous êtes intelligent, vous connaissez la loi, vous connaissez la Torah, ce que vous dites, c'est bien, c'est parfait. Mais une fois que vous avez dit ça, eh bien, ça ne me rejoint pas. Parce que moi, je suis
dans la souffrance,
la maladie, la souffrance d'avoir perdu quand même 7 fils, quand même, d'un coup, c'est quand même beaucoup, 7 fils, oui. Alors, ensuite, d'avoir perdu les troupeaux, on peut bien se consoler. D'avoir une femme qui vous tire les cheveux en disant maudit Dieu et meurt, c'est quand même extraordinaire.
Ah oui,
elle est... maudit Dieu et meurt, c'est quand même, par sa femme, ça fait quelque chose, quand même, j'imagine. Ouais. Et eh bien, cet homme dit. C'est à ce point de misère que doit se trouver poser la parole de Dieu. Et après, il dit, je me tourne vers Dieu, je lâche pas mon truc, je maintiens ma dignité et ma grandeur, et j'attends que Dieu, en quelque sorte, me fasse surgir de la poussière.
Donc finalement, Job ne perd pas la foi, il garde sa confiance en Dieu à la fin, parce qu'il a des périodes de doute.
Oui, oui.
Alors, il y a de quoi quand même.
Je fais jouer sur les mots. Vous dites qu'il ne perd pas la foi, je dirais il naît à la foi. Il est plus que celui qui dit j'obéis à Dieu.
C'est une réelle adhésion.
Voilà, donc il y a une profondeur de son être qui va s'adresser à Dieu, justement dans le point le plus douloureux. Voilà. Et la loi, bon, ben c'est bien, il faut une loi, mais elle est rendue à son aspect, si j'ose dire, pragmatique.
Et la loi, comme on la voit par exemple dans le Décalogue, la loi est ce qui permet de donner des règles de vie, mais elle n'est pas quelque chose qui enferme l'homme.
Elle n'est pas encore la vie.
Elle
n'est pas encore la vie. Oui, c'est pour ça, la loi, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Alors, Job ne parle pas de l'Esprit Saint, mais je pense que la tradition chrétienne parlera de l'Esprit Saint. Mais là aussi, vous voyez ma prudence, on ne va pas faire de l'Esprit Saint le bouche-trou du scandale. Au contraire, parce que le mal apparaît comme mal quand on est dans le bien.
C'est-à-dire
que celui qui fait le mal et qui est persuadé que c'est comme ça qu'il faut faire, lui ne voit pas de mal. Il pense que ça, on l'a toujours fait comme ça.
C'est vrai, mais parfois on fait le mal, donc c'est
les règles du marché, c'est les règles du marché. Où est le mal? Ben, c'est les règles du marché. On ne va pas parler de la politique actuelle.
On se dédouane.
Mais on s'enferme. Donc, dans quelque sorte, la loi, avec ce qu'elle a de justice et de mathématiques, donne quelque chose qui fait une carapace dans laquelle, finalement, l'intime même de la vie. Qui est passion au sens de tous les termes du mot, c'est-à-dire qu'il y a un élan et en même temps il y a une réception de quelque chose qui éveille à la reconnaissance de l'autre dans la sensibilité qui n'est pas simplement affective, mais qui est aussi celle de l'intelligence. Voilà, donc c'est ça le livre de Job, c'est la foi qui ne se contente pas qu'on nous dise « vous avez une loi, appliquez la loi et ça ira, et puis si ça ne vous faites pas, vous êtes puni, c'est justice, on n'en parle plus ». Non, oui d'accord, mais votre justice, je veux bien que Jérusalem ait été prise parce qu'il y avait des rois qui étaient corrompus, mais les pauvres gens dont on a tué les enfants qui étaient innocents, quel rapport ?
Oui.
Et Job prend ce parti-là.
Oui, Job prend le parti
De la victime.
De la victime, du malheureux, du pauvre et du malheureux. En tout cas, voilà, il est l'heure de se quitter, frère Jean-Michel Maldamé, mais merci pour ces réflexions qui éclairent justement la fragilité de l'homme. Et puis, donc, nous retrouvons dans les émissions suivantes la déclinaison, en tout cas, de cette thématique de la fragilité. Donc, je vous remercie beaucoup, frère Jean-Michel Maldamé. Vous nous avez éclairé donc, sur cet aspect théologique de la fragilité. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.